Wikipédia, massacre de Chio. Le massacre de Chio fut perpétré par les Ottomans contre la population grecque de l'île de Chio en avril 1822. Il constitue un des épisodes les plus célèbres de la guerre d'indépendance grecque. L'île était une des plus riches de la mer Égée, et les insurgés grecs tentèrent de la rallier à leur cause. L'Empire ottoman ne pouvait l'accepter. Il désirait faire un exemple qui impressionnerait ses sujets insoumis, voire aussi venger le massacre de Turcs par les Grecs lors du siège de Tripolisar. Après un débarquement d'un millier de partisans grecs, la sublime porte envoya près de 45 000 hommes avec ordre de reconquérir puis raser l'île, et d'y tuer tous les hommes de plus de 12 ans, toutes les femmes de plus de 40 ans, et tous les enfants de moins de 2 ans, les autres pouvant être transformés en esclaves. 1. Le bilan est estimé à 25 000 morts, tandis que 45 000 grecs auraient été vendus comme esclaves. Seulement 10 000 à 15 000 personnes auraient pu s'enfuir et se réfugier principalement dans les autres. Et s'il de léger, 2. Ce massacre de civils par les troupes ottomanes marqua l'opinion publique internationale et participa au développement du philhellénisme. Contexte. Une île prospère. Depuis le Moyen Âge, Chio était une île commerçante très riche. Elle intéressait les marchands italiens, vénitiens, à partir de 1272, ou génois, après 1346, gouvernèrent l'île. Elle passa sous la domination ottomane en 1566. Son intérêt économique, principalement lié au mastic, lui permit de jouir d'une relative liberté. 3. La présence ottomane était en effet limitée, un gouverneur ou mutezelim, un cadi, 4 et quelques soldats dans l'ancienne forteresse génoise à Cora, la capitale. Il n'avait aucun pouvoir réel. Un conseil de démogéronte, 5 grecs, 16 orthodoxes et 2 catholiques, élus tous les ans gouvernaient effectivement Chio. 6. Comme pour le reste des îles commerçantes de Grèce, le traité de Kutchukainargi, 1774, accrut sa fortune. Les marchands de l'île disposaient d'agents commerciaux dans tous les grands ports de la Méditerranée, de Marseille à Odessa ou Alexandrie, mais aussi à Moscou. Le mastic était principalement produit dans le sud de l'île, autour d'une vingtaine de villages appelés les Mastichokoria, ou villages à mastic. Chio en exportait une cinquantaine de tonnes par an. Le revenu des taxes sur ce produit était l'apanage de la sœur du sultan. Chio produisait en outre de la soie, du coton et des agrumes. 6. Les impôts n'étaient pas lourds. Les plus riches payaient 11 piastres par an, on estime que se nourrir revenait à 2 piastres par jour alors. 6. L'île disposait d'une école et d'un hôpital, dont les services étaient gratuits. Ils ne fonctionnaient que grâce à des donations. Un dicton grec d'alors disait que l'on avait autant de chances de rencontrer un chiotsou sio qu'un cheval vert. 6. La beauté des femmes de l'île était elle aussi devenue proverbiale, au point que les visiteurs occidentaux s'en faisaient régulièrement l'écho. 7. La richesse de Chio attira les convoitises. La guerre d'indépendance grecque. La guerre d'indépendance grecque fut une guerre de libération contre l'occupation ottomane. Si les affrontements principaux eurent lieu dans le Péloponnèse et autour d'Athènes, d'autres régions furent concernées, comme les îles de l'Égée. Ali Pacha de Janina, qui cherchait à assurer définitivement l'indépendance de ses possessions en Épire, s'était révolté contre le sultan Mahmud II en 1820. La porte, nom parfois aussi donné au gouvernement de l'Empire ottoman, avait dû mobiliser toute une armée autour de Ioannina. 8. Pour les patriotes grecs organisés dans la Phylikieteria, et qui préparaient le soulèvement national depuis la fin du XVIIIe siècle, 9, cette rébellion rendait le moment favorable. Il y avait potentiellement moins de soldatures disponibles pour réprimer leur soulèvement. L'insurrection fut déclenchée dans le Péloponnèse. Elle commença entre le 15 et le 20 mars 1821, sous la double impulsion de Teodoro Kolokotroni, un des chefs de l'insurrection, et de l'archevêque de Patra, Germano, qui proclama la guerre de libération nationale le 25 mars. Au même moment, Alexandre Ypsilanti pénétrait en Moldavie et Valachie, second foyer prévu pour l'insurrection, à la tête d'une troupe composée de membres de la Phylikieteria installée en Russie. L'Empire ottoman réduisit l'insurrection dans les provinces danubiennes en 9 mois, 10. En Grèce même, les insurgés triomphaient. En octobre 1821, les troupes grecques, commandées par Kolokotroni, s'emparèrent, après 5 mois de siège, de Tripolisa, la capitale ottomane du Péloponnèse. Les Turcs et leurs familles qui vivaient dans la péninsule, s'y étaient réfugiés dès les premiers coups de feu de l'insurrection. On estime que 30 000 personnes, hommes, femmes et enfants, devaient s'y trouver au début du siège. En octobre, la population était tombée à 15 000, suite au nombre de décès à cause des combats, de la famine ou des épidémies, mais aussi des évacuations. Un certain nombre d'accords entre assiégés et assiégeants avaient permis de faire partir des soldats albanais, qui rentrèrent chez eux ou des femmes et des enfants. Début octobre, alors que la ville tenait toujours, les Grecs, malgré les accords, massacrèrent 2000 femmes et enfants qui quittaient Tripolisar. Lorsque la citadelle fut prise, les troupes grecques ne respectèrent pas les conventions militaires en vigueur alors, la garnison pouvait être passée par les armes et la ville. le piller, mais les civils devaient être épargnés. Ce ne fut pas le cas. Près de 8000 personnes furent exterminées. 11. Au début de 1822, l'Assemblée nationale des pays d'Or proclama, unilatéralement, l'indépendance du pays. La porte se devait de faire un exemple pour ramener ses sujets à l'obéissance. Le massacre de Chio constitua le point culminant de cette répression. Il fut aussi considéré comme une vengeance du massacre de Tripolisar. Le massacre à Chio. Premier problème. En mai 1821, l'amiral Idrieu Tiakovo Tombasi vint sur l'île avec une partie de la flotte des insurgés, 12 pour essayer de convaincre les Chiites de se joindre au mouvement. Pourtant, quelques semaines plus tôt, ils avaient envoyé une délégation à Psara, autre île d'armateurs insurgés, demandant expressément qu'on ne les impliquât pas. 13. En effet, ils craignaient pour leurs ressortissants, disséminés dans tous les ports de l'Empire ottoman, et qui pourraient devenir les victimes de représailles de la part de la porte. 14. Les hommes de Tombasi parcoururent l'île pour rencontrer les habitants des villages directement, mais ils ne réussirent pas à atteindre leur objectif. Ils se retirèrent au bout d'11 jours. 13. La réaction ottomane ne se fit pas attendre. Un gouverneur, Veil Pacha, fut envoyé par le divan. Il s'installa dans la forteresse de Kora. 15. Afin de s'assurer que les chiottes ne bougeraient pas, il demanda 40 otages, dont l'archevêque Platon Frangadi, les démogérontes et des membres des principales familles de l'île comme les Argentis, les Mavrocordato et les Rally. Ils furent enfermés dans la forteresse. 16. Trois furent envoyés, par voie de terre car on craignait les navires grecs, à Constantinople. 13. Les mastiches Coria fournirent quant à eux 12 otages. 17. Les armes de la population grecque furent saisies. La porte répondit aux demandes d'aide du gouverneur en lui envoyant 1 000 d'hommes depuis Chesmé, en face sur le continent. 13. Peu disciplinés, ils étaient attirés par le pillage. 17. Ils patrouillaient à la campagne de l'île, y semant la terreur. Des cas de pillage, d'agression voire d'exécution sont rapportés dès ce moment. 13. Le commerce vers Chio commença à diminuer et la paix. Provisionnement fut plus difficilement assuré. Le système d'aide mis en place au temps de la prospérité, réussit encore à fonctionner et la famine fut évitée. 17. De nouvelles troupes arrivèrent ensuite, plus disciplinées. Au printemps 1822, la garnison de la Cité Belle, comprenait 4500 hommes. 13. Le nouveau gouverneur, Bachet Pacha, imposa aux chiottes, une contribution extraordinaire, et leur fit payer l'entretien de ses hommes. Les greniers à blé furent aussi vidés. 17. La libération de l'île par les insurgés grecs. La rumeur parvint à Chio que Samo, armait une troupe pour lui venir en aide. Les démogérontes et l'archevêque envoyèrent des émissaires à travers l'île pour recommander aux habitants de ne pas réagir si elle venait à débarquer, afin de ne pas déclencher la colère ottomane. 17. Le 22 mars 1822, 11 mars Julien, Lico Gologotetti, venu de Samo avec 2500 hommes, 18 rejoignit sur Chio, le capitaine local Antonio Bournia, ancien officier de l'armée française lors de la campagne d'Égypte. Et ses 150 left. Ils obligèrent les 600 ottomans envoyés pour les repousser à se replier dans la forteresse de la capitale de l'île, Kora. 19. Un duel d'artillerie commença entre la Cité Belle, et les canons grecs disposés au bord de la mer et sur les collines de Tourlopti et Azomati au-dessus de la citadelle. La ville fut quant à elle prise et pillée. Les clefs brûlèrent les bâtiments de la douane, et firent fondre le plomb des toits des deux mosquées pour couler de nouvelles munitions. 20. Lorsque les maisons des musulmans eurent été vidées, celles des riches commerçants grecs ne furent pas épargnées. Le butin fut envoyé à Samo. 21. Cependant, la force sémienne n'était ni suffisante, ni suffisamment armée pour prendre la citadelle. Les canons grecs durent se taire faute de boulets, d'où la nécessité de fondre le plomb pour en fabriquer. Le Gotetti demanda alors de l'aide à la Grèce insurgée. Psara promit 20 barils de poudre et de canons, mais pas de boulets, ainsi que 6 navires de guerre. Le gouvernement installé alors à Corinthe, promit quant à lui de mortiers, 5 batteries de siège et des philélènes pour les manier. Mais, l'aide fut longue à être organisée et transportée. Elle ne parvint pas avant la contre-attaque ottomane. 21. L'archevêque fut libéré et les démogérons déposés et remplacés par un conseil révolutionnaire de 7, 22 et fort au nom du gouvernement grec insurgé de Dimitrios Ypsilanti. Cependant, le Gotetti et Bournia désiraient tous deux être proclamés sauveurs de Chio. Ils finirent par se mettre d'accord en divisant l'île en deux, le nord pour Bournia et le sud, avec Kora, pour le Gotetti. Les forces militaires et l'administration étaient aussi divisées, réduisant toute possibilité d'action concertée en cas de contre-offensive ottomane. 20. Le Gotetti était soutenu par ses Samiens, Bournia s'appuyait sur la foule. 21. La population de l'île ne réagit pas ainsi que ses notables l'y avaient exhorté. Des paysans, encouragés par certains popes, s'emparèrent d'armes de fortunés, venus des villages de l'intérieur de l'île, marchèrent sur Kora. Ils réussirent à faire bouger une partie de la population pauvre de la capitale. Ils parcouraient les rues, croix et icônes en tête, en chantant des hymnes patriotiques. Mais, dès que les troupes ottomanes de la citadelle semblaient vouloir faire une sortie, ils se dispersaient. On voit ici la division sociale très nette, qui caractérisa les réactions à la guerre d'indépendance, et qui mena aux diverses guerres civiles qui la marquèrent. Bournia se méfiait des riches familles de l'île qu'il soupçonnait de vouloir fuir. Il utilisa la foule pour les surveiller, et multiplia les visites domiciliaires pour s'assurer qu'elle restait sur l'île. 21. La reconquête ottomane et ses conséquences. La porte fit arrêter sept riches chiottes résidant à Constantinople, qui rejoignirent leurs compatriotes déjà otages. Le capitaine Pacha, amiral de la flotte ottomane, Kara Ali, reçut l'ordre de transporter à Chesmé 15 000 hommes, qui devaient rejoindre les 30 000, qui commençaient à s'y rassembler. La majorité étaient des volontaires, attirés par l'espoir du pillage des richesses de Chio. Un régiment aurait même été constitué uniquement de religieux musulmans. La composition de ces troupes fit craindre le pire aux diplomates occidentaux en poste à Smyrne et Constantinople. 20. Le jeudi 11 avril, celui juste avant Pâques, la flotte de Kara Ali, composée de 46 navires transportant 7000 hommes, 15-23, se présenta devant Chio. La résistance grecque fut brève, un navire ottoman avec 80 hommes à bord s'échoua. Les passagers qui ne se noyèrent pas, furent tués par une fusillade grecque. Le débarquement ottoman ne put cependant être repoussé. Il fut aidé par une sortie des troupes ottomanes de la citadelle. Le Gotéki et ses Samiens se replièrent. Ils furent rejoints à Agio Giorgio, 9 km au sud-ouest de Kora. Ils résistèrent le temps que des navires de Psara arrivent pour les évacuer. Kora fut alors pillée et ses habitants massacrés, tête et oreilles furent envoyés au sultan, qui les fit exposer devant le sérail. 24. Les Ottomans continuaient à arriver depuis Chesmé sur le continent. Ils commencèrent à se répandre dans les campagnes de l'île. Les Grecs cherchèrent alors refuge dans les divers monastères de l'île qui disposaient pour la plupart de murailles, de puits ou de citernes et de réserves de nourriture. Ils espéraient pouvoir y attendre en toute sécurité que l'orage passe. Néamoni, un monastère du XIe siècle dans les collines au centre de l'île, accueillit 2000 personnes qui furent massacrées, lorsque les Ottomans s'en emparèrent. 24. Le jour de Pâques, le dimanche 14 avril, 2 avril Julien, une force de 15 000 soldats ottomans, après avoir sécurisé la forteresse de Kora, marcha sur le monastère d'Agiomina, au sud de Kora, dans lequel 3 000 Grecs avaient trouvé refuge. Les assiégés ayant refusé de se rendre, le monastère fut incendié. Tous les réfugiés périrent et le monastère en grande partie rasé. 25, 24, 26. Le lendemain, les Ottomans attaquèrent le village d'Agio Giorgio, et massacrèrent les 2300 Samiens et Chiottes qui s'y étaient réfugiés. Il fut alors annoncé une amnistie totale pour les autres habitants de l'île qui quittèrent leurs cachettes et furent massacrés. 25. Les notables de l'île retenus otages à Kora furent exécutés le 5 mai. Seuls les catholiques eurent la vie sauve. Les diplomates français, consuls à Chio, vice-consuls à Smyrne et ambassadeurs à Constantinople, avaient obtenu leur libération. Les 49 autres furent pendus sur ordre du sultan, 8 au mât de la Capudana, navire amiral du capitaine Pacha, les autres aux arbres le long de la route, 27 sous les remparts ouest de la forteresse. Les otages à Constantinople furent décapités 2 semaines plus tard, 28 et les Constantinopolitains originaires de l'île furent eux aussi exécutés, 29. Au début du XXe siècle, un instituteur de Chio, l'île redevenue grecque, entreprit de rassembler les témoignages de survivants et de réfugiés ailleurs en Grèce ou de leurs descendants. La collection d'histoires ainsi réunies est hétéroclite. On y trouve des légendes, considérées comme vraies par ceux qui les racontaient, comme ces Turcs devenus aveugles au moment de tuer un pope. Elle comprend aussi des récits d'atrocités ou d'actes de générosité de la part des Ottomans, ce qui montre que tous les Turcs n'étaient pas des monstres sanguinaires. Surtout, les conditions de survie, dans la campagne, dans la montagne ou dans les grottes sont évoquées, le problème de la faim, de la soif ou des bébés qui pleuraient et risquaient de révéler les cachettes aux bandes de soldats parcourant l'île. 30. Il faut ainsi penser à relativiser les sources, anciennes ou récentes, évoquant les massacres. Les esclaves. Vendre les chiottes comme esclaves, était une activité plus profitable que de les massacrer. Kara Ali l'avait d'abord interdit, mais il avait dû s'y résoudre, constatant que ces hommes exécutaient leurs prisonniers. La réduction en esclavage apparaissait alors un peu plus humaine. À la fin du mois de mai 1822, 2 mois après le débarquement, près de 45 000 hommes, femmes et enfants, sans distinction sociale, avaient été déportés vers les marchés aux esclaves de Smyrne, Constantinople, mais aussi d'Égypte et de Barbarie, Afrique du Nord ottomane. Les diplomates occidentaux dont l'ambassadeur britannique Stanford avait protesté, en 20-28. Quelques esclaves eurent la chance d'être rachetés, surtout par de riches marchands d'origine chiote à Smyrne. Ils payaient ce qui devenait de fait une rançon, et envoyaient leurs biens nouvellement acquis à Trieste surtout, ou dans le reste de l'Europe occidentale, où ils redevenaient libres. Mais, il ne fut pas possible de racheter tout le monde, principalement en raison du coût. Une femme de la bonne société chiotte, et ses 2 filles furent rachetées 15 000 piastres. Le vice-consul britannique à Chio, M. Giudici, acheta quant à lui plusieurs centaines d'esclaves. Les soldats ottomans se tournèrent vers lui quand il devint impossible, en raison du nombre d'esclaves, de les transporter sur le continent pour les vendre. Giudici dépensa une fortune. 31. Fin juin, un ordre impérial interdit la vente de chiottes sur les marchés aux esclaves de Constantinople. La sœur du sultan voulait vérifier d'abord que les habitants de ces villages amastiques n'étaient pas dans le Loumet. À ce moment-là déjà, la plupart des esclaves chiottes avaient été vendus et la source d'approvisionnement était tarie. 31. Les survivants fuirent l'île offrait le meilleur espoir de survie. Pour s'embarquer, la baie de Mesta à l'ouest était pratiquement la seule solution, puisqu'elle était éloignée des côtes turques. Le village médiéval de Mesta, à plus de 3 km de la mer, accueillit près de 5000 réfugiés, qui guettaient l'apparition de voiles amies sur la mer. Des navires de Psara, Samo, Hydra et Spetz vinrent les secourir. Il y eut aussi quelques navires occidentaux. Les Psariotes auraient demandé aux réfugiés de payer leur passage. Si Psara était l'île la plus proche, elle n'était qu'une première étape. Sa petite taille l'empêchait de recevoir les fuyards. La destination principale de l'exode fut Siro, dans les Cyclades. D'autres îles les accueillirent. Certains survivants s'engagèrent, aussi dans la guerre d'indépendance sur le continent. 32. Les Mastichokoria, village amastique, furent, dans un premier temps, épargnés. Kara Ali, après le départ des derniers Samiens, soit une semaine après son débarquement, leur fit porter, par 3 agents consulaires occidentaux, une proposition d'amnistie, et une lettre rédigée par les notables toujours otages enjoignant d'accepter la proposition. Les villages se soumirent à un lieutenant de Kara Ali, et les Aga, fut envoyé pour assurer leur protection. 33. Kara Ali fit aussi respecter les consulats des puissances occidentales. Ainsi, 1200 Grecs furent protégés dans le consulat français et tous les catholiques trouvèrent refuge dans le consulat autrichien. 33. Conséquences. La réponse grecque et ses conséquences à chaud. Début mai, la flotte grecque commandée par Andrea Miaouli, est composée de 56 navires de guerre, et 8 brûlots provenant d'Hydra, Spetz et Psara, se dirigea vers Chio. Elle n'avait pas pu venir plus tôt, immobilisée comme bien souvent au cours de la guerre d'indépendance par des problèmes d'intendance, de financement et des dissensions au niveau du commandement. Pendant un mois, de nombreuses escarmouches se succédèrent, sans que jamais la décision ne soit faite. 31. Le 18 juin, 6 juin Julien, 1822, l'amiral Constantin Canary, coula le vaisseau amiral ottoman avec un brûlot, tuant l'amiral ottoman Kara Ali et 2000 marins turcs. Cette action est considérée par l'historiographie grecque, comme ayant vengé les massacres de Chio. 34. La flotte ottomane était ancrée dans la baie de Kora. L'attaque eut lieu le soir, au moment de la rupture du jeûne du Ramadan. Toute la journée, deux navires grecs avaient lutté contre le fort vent du nord, semblant essayer de s'enfuir en passant le cap nord de l'île en remontant, avec grande difficulté, au vent. En fait, il s'agissait de deux brûlots qui se mettaient en position pour pouvoir attaquer. Depuis les combats navals de l'été et de l'automne précédent, la conception des brûlots avait été améliorée. Ils étaient dès lors renforcés avec du cuivre pour empêcher que les flammes les désintègrent complètement, avant qu'ils aient rempli leur office. Au coucher du soleil, ils changèrent de cap et forcèrent l'allure, vent arrière. La flotte ottomane était illuminée pour les célébrations religieuses, et la capubana et le navire du vice-amiral étaient le plus. Le brûlot de Canary éprena le navire amiral ottoman vers minuit. Le mât de Beaupré fut coincé dans un sabord au niveau de la proue et la mèche allumée. Canary et ses hommes évacuèrent leur brûlot, tandis que le navire amiral s'embrasait en quelques minutes. Les marins turcs essayèrent de s'enfuir avec les canots de sauvetage, dont deux trop chargés coulèrent. Les esclaves chiottes présents dans les cales du navire furent abandonnés à leur sort. Kara Ali, alors qu'il embarquait dans une chaloupe, reçut un espar enflammé sur la tête. Conduit sur la terre ferme, il mourut le lendemain. Il fut enterré dans la citadelle de Kora. Son navire explosa au bout de 3 quarts d'heure, quand la réserve de poudre fut touchée. L'autre brûlot, commandé par Andrea Pipino, réussit à mettre le feu au navire du vice-amiral. Mais celui-ci parvint à se dégager. Il alla s'échouer sur la côte d'Azimine. Il brûla toute la nuit, mais son équipage avait eu le temps de le quitter. Les flammes des incendies furent aperçues jusqu'à Smyrne, distante de près de 75 km. 35. La mort du capitaine Pacha et la destruction des deux principaux navires de la flotte ottomane furent rapidement vengées. Les Mastichokoria avaient été protégés depuis avril. Ils étaient les derniers endroits de l'île sur lesquels la répression ne s'était pas abattue. De nombreux chiottes, venus de toute l'île, y avaient aussi trouvé refuge. Une troupe de 20 000 soldats turcs ravagea la région qui connut le même sort que Chio 2 mois plus tôt, village brûlé, habitants massacrés ou vendus comme esclaves. 36. Bilan total et problèmes historiographiques. La population de l'île au début de 1822 est estimée entre 100 000 et 120 000 personnes, dont 30 000 habitaient Kora. Il y aurait eu aussi autour de 2 000 musulmans sur l'île. 15. 37. Le chiffre le plus courant pour la population après les massacres est de 20 000. Le philhellène et historien écossais, Thomas Gordon, 38, donne seulement 1800 survivants, précisant que le village le plus peuplé n'abritait que 12 personnes. Les estimations les plus courantes sont 25 000 morts et 45 000 personnes réduites en esclavage. 10 000 à 20 000 auraient réussi à s'enfuir, 37, 39. L'île disposait aussi d'une des plus grandes bibliothèques de l'Égée, 70 000 volumes, intégralement détruites. Les récoltes pourrirent aussi sur pied à l'été 1822, plus personne ne pouvant moissonner, 40. Ce massacre de la quasi-totalité de la population de Chio pose un certain nombre de questions et de problèmes historiographiques. La réaction ottomane semble en effet disproportionnée en regard du danger. Le Göteti et ses hommes ne pouvaient réellement menacer la garnison de Kora, au moins deux fois plus nombreuse. Les autorités ottomanes locales savaient de plus que les Samiens ne seraient pas vraiment soutenus par la population insulaire. Les milliers d'hommes envoyés par la porte n'étaient pas vraiment nécessaires, si chasser les Samiens de Chio était l'objectif. Leur indiscipline ne pouvait que mener au désastre, tandis qu'une simple opération de maintien de l'ordre aurait permis de conserver la fidélité et les revenus de Chio. Une partie de la réponse pourrait se trouver dans des problèmes politiques au niveau du gouvernement ottoman. Le principal avocat de l'exécution des otages à Constantinople était le ministre Valéry Effendi, qui avait à faire oublier certaines de ses erreurs politiques qu'il avait rendues impopulaires. Le massacre de Chio aurait pu servir à détourner l'attention dans l'Empire, 37. Il est probable aussi que la porte cherchait à faire un exemple pour impressionner ses sujets qui auraient pu être tentés de rejoindre l'insurrection grecque ou de profiter des difficultés qu'elle créait. L'émotion en Occident. La première réaction fut purement matérielle et financière. Chio était une île commerçante, engagée dans des échanges à travers toute l'Europe. Le massacre et les pillages ruinèrent bien sûr les maisons de commerce chiotes, mais ils touchèrent aussi leurs correspondants qui ne pouvaient plus compter sur le paiement des sommes engagées. Le 17 juin 1822, le consul britannique à Smyrne évaluait la perte pour les commerçants britanniques, en traite non payée, à 195 millions de piastres, 41. Ensuite, l'émotion face aux horreurs commises prit le relais. Castlereagh, le Foreign Secretary britannique, menaça l'Empire ottoman d'une rupture des relations diplomatiques. Cependant, l'attitude du gouvernement britannique évolua. Il cessa de considérer les insurgés grecs comme des rebelles pour leur accorder le statut de belligérants. Les règles appliquées à une nation en guerre pouvaient dès lors concerner la Grèce. Ainsi, le blocus naval exercé par la flotte grecque le long des côtes ottomanes devenait par exemple légal, étant acte de guerre, 42. En France, Delacroix exposa sa scène des massacres de Sion au salon de 1824. Charles X en fit immédiatement l'acquisition pour les collections du Louvre, 42. Aux expositions au profit des Grecs, tenues à l'été 1827 à la Galerie Lebrun, l'élève de David, Henri de Quesne, exposait un factionnaire grec trouvant sur le rivage le corps d'une jeune fille de Chio. En Russie, le prince Golitsyn organisa une collecte de fonds pour venir en aide aux victimes des massacres, 43. Les écrivains participèrent à la diffusion de cette émotion. Le recueil de poèmes Les Orientales de Victor Hugo comprend un poème L'enfant grec consacré au massacre de Chio. Le poète américain William Cullen Bryant publia en 1824 un poème intitulé De massacre à Tsio 44. Antoine Prosper Guerrier de Dumast fit paraître dès 1822, chez Didot Frères, un poème lyrique Chio, La Grèce et l'Europe 45. Au sein de l'Europe, dirige, renaissait un peuple fameux, dont la nouvelle et brillante aurore maria l'espérance avec le souvenir. Longtemps, il implora sous les destins contraires le secours de ses frères, 46. Demandez à la mort s'il a pu l'obtenir. Béranger écrit dans une de ses chansons, consacrée au massacre suivant, celui de Psera. N'as-tu, Chio, pu sauver un seul être, qui vint ici raconter tout émou, l'indépendance de l'île. En 1827, suite à la signature de la Convention de Londres, le 6 juin, il devint clair que Chio ne serait pas incluse dans le territoire de la Grèce indépendante. Il fut alors décidé de profiter de la relative bienveillance des puissances européennes, et d'essayer de les mettre devant le fait accompli à propos de Chio. Des Chiottes exilés décidèrent de financer une expédition pour reprendre l'île. Le commandement en fut confié au colonel Fadvier. Une commission Chiotte fut constituée sur Siro, chargée de récolter des fonds ainsi que de coordonner l'action avec les nouveaux démogérontes qui gouvernaient l'île. La question de l'implication du gouvernement grec de l'époque s'est posée. Avait-il ou non soutenu le projet ? Toujours est-il que le gouvernement suivant, celui de Ioannis Kapodistria, désavoue à l'expédition. La tentative se solda par un échec. Le corps expéditionnaire était composé de palicares, des soldats irréguliers dont se méfiait Fadvier. Il ne put les empêcher de se livrer au pillage, des légats, Sion occidentale ou des maisons des Grecs. Le paiement des soldes était aussi très souvent en retard. Les navires grecs n'étaient pas en mesure d'interdire un débarquement de troupes ottomanes venues de Chesmé. Cependant, les marines occidentales, surtout les vaisseaux français, purent empêcher un nouveau massacre de l'ampleur de 1822 par leur seule présence. 47. Fin novembre 1827, après la bataille de Navarin, l'expédition assiégea et bombardait la forteresse de Cora. 48. L'indépendance de la Grèce fut acquise en 1830, mais Chio ne rejoignit ce pays qu'en 1912.